Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, je reçois l'écrivain Christophe Tison avec un roman brillant. Vous allez avoir envie de savoir la suite, j'en suis sûr. Visite de bibliothèque, celle d'Aurélie Valogne. Aujourd'hui, grande lectrice, vous verrez. Thibaut Raden, notre libraire de Vaucresson, nous donnera quelques conseils. Et puis, Héloïse Goy fermera la boutique avec sa chronique jeunesse. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Vous connaissez sans doute sa voix. Christophe Tison a été longtemps journaliste pour Canal+, notamment, où il posait son ton si particulier sur des images. C'est lui qui a lancé Trax, tiens. J'ai appris ça en travaillant mon émission. Mais en fait, il est surtout écrivain depuis quelques années et j'avais beaucoup aimé son précédent livre, Journal de Elle. Magnifique. Le revoilà avec Le choix de Suzanne chez L'Arpenteur. C'était l'occasion de le rencontrer. Bonjour Christophe Tison.
Bonjour Nicolas.
Alors, Le choix de Suzanne, c'est un choix terrible, sinon il n'y aurait pas de roman. Je le divulgue ce choix parce qu'il est sur la quatrième de couverture, mais en fait il ne se présente à Suzanne qu'à la moitié du roman. Mais il est très fort. Suzanne donc est en montagne, accrochée à un piton rocheux, et de part et d'autre du rocher sont suspendus son amant Neil et son mari Fred. Ils ne peuvent pas s'en sortir, impossible. Sauf si Suzanne décide de couper l'une des deux cordes. Elle doit donc choisir entre la vie de son amant et celle de son mari. Terrible. Alors, est-ce que vous avez eu l'idée du roman à partir de ce choix, à partir de cette scène, ou est-ce qu'il est arrivé comme ça, la moitié du livre, comme un rebondissement naturel ?
Non, j'ai eu cette idée plus tard. La première chose que j'ai écrite dans ce roman, c'est la scène... la première scène qui se passe dans un tribunal.
Et première page, on comprend qu'elle va être jugée, en fait.
Oui, voilà. On comprend qu'elle va être jugée, c'est une cour d'assises. Et puis, il y a un homme à côté d'elle sur le banc des accusés. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais qui c'est cet homme à côté d'elle sur le banc des accusés ? Et puis, je me suis dit, bah, forcément, il y a un mort. Qui pourrait être ce mort ? Et je me suis dit, bon, ben voilà, on va commencer 2 ans avant. Et on va aller jusqu'au procès. On va aller jusqu'au meurtre et au procès. Voilà.
Mais vous ne saviez pas qui était à côté?
Non.
À ce moment-là?
Non.
Ah, génial.
C'est les miracles de l'écriture, hein, on ne sait pas.
Mais alors pourquoi vous avez décidé de mettre cette scène en quatrième de couverture? Parce qu'en fait, ça aurait pu commencer par là, la première page. Vous auriez pu décider de finalement commencer par ce choix, puis après, flashback, et on ne sait pas qui va lâcher.
Oui, mais si ça devient un film un jour, à mon avis, c'est comme ça que le réalisateur le fera. Il fera la scène en haute montagne avec Suzanne en train d'essayer de couper une corde ou une autre, celle de son amant ou de son mari, de choisir, et puis on ne saura pas, et hop, ça reviendra. Mais là, je ne sais pas, j'avais écrit cette première scène de tribunal, et je me disais que le flashback, c'était après, et qu'on retrouverait après, évidemment, dans le roman, pourquoi elle est... sur le banc des accusés.
Oui, alors ça c'est les deux premières pages, le procès. Enfin, il y a un gendarme qui vient la chercher, on l'assoit, ça va très vite, on ne sait pas du tout ce qui est fait là ou quoi. Deux ans plus tôt, donc, flashback, c'est la vie de Suzanne, qui vit une petite vie tranquille, elle vient d'avoir 40 ans, elle est mariée à Fred, qu'elle aime sincèrement.
Oui, oui.
Et lui est le patron de Calm X, qui est une entreprise de bien-être, de méditation.
Une boîte de développement personnel, un peu comme Petit Bambou, quoi. Enfin bon, voilà, je me suis dit que c'était peut-être un peu meurtre chez Petit Bambou, cette histoire.
Avec cette contradiction géniale, mais on va y revenir sur le côté Startup Nation, Startup caricatural même, dans une sorte de spiritualité du bien-être, où en fait, il faut surtout pas penser à l'argent et tout, faut penser qu'à sa respiration, etc. Mais,
ouais.
Mais ça, on va y revenir, ouais. Parce que juste avant, en fait, il y a une soirée où il y a une de ses collègues, Barbara, qui lui dit que cette fois, elle va y aller, quoi. Elle va prendre un amant. Et c'est quel amant ? C'est Neil, qui est un des coachs en méditation. Et en fait, Suzanne, ça lui paraît complètement délirant, cette histoire. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais même pensé à avoir un amant.
Bah oui, cette fille, Barbara, au tout début du roman, lui dit « Est-ce que tu as déjà pensé à avoir un amant ?» Et Suzanne dit « Bah non, je suis très bien avec mon mari, on s'est battu pour être ensemble, apparemment ça a été difficile pour le faire accepter par la famille, etc. » Elle l'aime, et puis sa copine lui dit « Bah moi je vais prendre un amant, il va venir, tu vas le voir, tu vas me dire si j'ai des chances. » Et puis, d'un seul coup, Suzanne dit, Suzanne voit cet homme et elle s'effondre. C'est-à-dire que intérieurement, elle s'effondre.
Coup de foudre.
Hein. Coup de foudre. Et elle pique le mec potentiel de sa copine. Mais le désir, c'est souvent comme ça, le désir. On vous montre quelqu'un, on vous dit « Ah, lui, il est génial » ou « Elle, elle est géniale » et puis d'un seul coup, vous vous y intéressez. Donc, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, le désir.
Et aussi parce que c'est sa copine qui le désire. Et donc, il y a ce désir mimétique, bien sûr. Quand quelqu'un désire quelque chose, peut-être qu'on a inconsciemment aussi le même désir.
C'est le fameux désir mimétique de
René Girard.
De René Girard, ouais. Ouais, ouais.
Alors, Neil, lui, quand elle rencontre, il est coach en développement personnel dans la boîte de son mari, en plus. Mmh. Il est dans le présent. Il dit des trucs du genre... Chaque semaine, il n'y a que deux jours pour lesquels on ne doit pas s'en faire. Hier et demain, il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Allons danser, Suzanne. C'est la première chose qu'il lui dit.
Oui, mais c'est l'époque. C'est l'époque. On est dans cette époque où on nous dit, bon, vivez aujourd'hui, profitez de l'instant présent. On est dans l'époque de l'instant présent. Donc, comme si on ne devait pas se soucier du futur ni du passé. Quoi.
C'est l'époque, mais c'est déjà un peu éculé, on a l'impression, tellement on ressasse ça sans arrêt. Vivez le présent, vivez l'instant, pensez pas au passé, pensez pas au futur. Et ça marche quand même avec elle, quoi.
Oui, ça marche avec elle, parce que en fait...
On sent que vous êtes bien amusé d'ailleurs à mettre des mantras ici et là de développement personnel.
Ouais. Mais c'est le maître... Elle rencontre quelqu'un qu'elle appelle le maître des mots. Elle dit « Mon amant était le maître des mots ». Et donc, effectivement, il l'emmène, il l'apaise, il a fait rêver. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un d'assez beau.
Il y a immédiatement une contradiction. C'est la naissance du chaos, puisqu'elle est ses coups de foudre, donc amant potentiel, donc crise potentielle. Et immédiatement, ça change de ton et même de style quasiment. Et le paragraphe d'après, tout le monde veut tuer tout le monde. C'est-à-dire que Barbara voudrait tuer Suzanne et son amant, parce que Suzanne l'a piqué. Et puis le photographe, parce que Suzanne fait une petite séance de shooting pour un site internet, le photographe voudrait empoisonner tous ses modèles au curare.
c'est
dingue, tout à coup, ce changement d'ambiance, quoi.
Oui. C'est vrai que d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de Suzanne qui va l'amener jusqu'au bout, quoi.
Mais presque anti-développement personnel, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, donc ça va mal se passer.
Oui, parce que, à mon avis, pour faire du développement personnel, il faut déjà être calme. Il faut déjà être posé. Sinon, si vous êtes dans une énorme colère, etc., c'est impossible de vous poser et de vous dire « Bon, bah, maintenant, tu vas méditer 5 minutes. Et tu vas te réciter du Pascal. »
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix et Livre continue toujours avec Christophe Tison pour Le choix de Suzanne. C'est à l'Arpenteur. L'histoire donc de Suzanne qui est mariée à Fred, qui lui dirige une start-up de développement personnel, de méditation, qui fait des vidéos, des trucs comme ça, des exercices de méditation. Ça marche pas mal. Son couple aussi marche très bien, Fred et Suzanne. Ils s'entendent très très bien. Ça fait longtemps que ça dure et c'est très chouette, c'est très beau. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont la petite filleule quand même de Suzanne. Donc, pas sans enfants non plus tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre cette petite fille et elle. Mais tout à coup, le chaos, puisque dès le début du roman, elle se trouve un amant qui est en plus un des coachs de Calm X, la boîte de son mari. Cet amant s'appelle Neil. Et à partir de là, bah évidemment, ça a pu se passer comme prévu. Et donc, on le disait, on en parlait tout à l'heure, ça ne saute pas aux yeux tout de suite dans le roman parce qu'on se dit que ça pourrait être n'importe quelle autre boîte. Mais en fait, c'est très très important. C'est Calm X, cette boîte de développement personnel. Et vous pointez des choses ici et là. En fait, tout le roman, il y a des... Comme ça, des... c'est des idées de mantras de développement personnel qui sont en fait retournées, et puis des réflexions sur le fait que ces histoires de développement personnel qui ont des très bons côtés, j'avais pas vu ça, mais il y a quelque chose d'hyper individualiste en fait dans le développement personnel, dans cette manière de faire en tout cas.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. À un moment, Suzanne pose la question d'ailleurs. Elle dit, mais j'en ai marre de ce monde où on nous dit toujours qu'on est responsable de ce qu'on fait, qu'on est totalement responsable de ce qu'on fait ou de ce qu'on ressent. C'est-à-dire que dans le développement personnel, on vous dit, bon, ben, essayez d'accepter le monde tel qu'il est, acceptez-vous tel que vous êtes, etc. Mais il y a un moment, c'est insupportable. C'est insupportable d'entendre ça tout le temps. C'est-à-dire que si je suis ce que je suis, si je suis en colère, par exemple, c'est pas forcément... je vais devoir accepter d'être en colère, je suis d'accord. Mais bon, je suis en colère pour des tas de motifs qui sont extérieurs à moi aussi. C'est pas une colère d'enfance ou une colère... Enfin bon, une colère...
Puis pour devenir quoi ? C'est-à-dire une sorte d'être parfait, de calme, de yogi, comme ça ?
Oui, qui accepte tout.
Oui. Donc pourquoi en fait ?
Non, mais je trouve que c'est vrai que le développement personnel, où on vous dit tout le temps que vous êtes responsable à 100% de ce que vous êtes, c'est comme le libéralisme, c'est comme l'ultra-libéralisme. C'est vous dire, bah, vous êtes seul finalement, et l'environnement, le contexte socioculturel dans lequel vous êtes plongé, ou dans lequel vous êtes né, etc., n'existe pas, et vous êtes seul responsable de ce que vous êtes. Et je trouve que c'est de la foutaise.
Alors, c'est un roman très intéressant aussi parce qu'il y a tout un tas de genres qui se mêlent. Donc, il y a le côté polar, évidemment. On en a parlé. Enfin, on va en parler, mais c'est au cœur du livre. Il y a ces histoires de développement personnel qui font plus penser à un roman plus sociologique. Et puis, vous aviez envie d'une histoire d'amour et d'amant, en fait, puisque vous décortiquez toutes les caractéristiques de ce genre de relation.
Ouais, j'adore les histoires d'amour, en fait. En fait, je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai lu L'éducation sentimentale de Flaubert quand j'avais 17 ans, ou Le Rouge et le Noir, les histoires d'amour, c'est absolument extraordinaire. Et puis, c'est aussi ça qui moi, me motive, me fait vivre. C'est aimer et être aimé, quoi.
Mais vous auriez pu vous contenter d'une histoire d'amour.
J'aurais pu me contenter d'une histoire d'amour, c'est vrai. Mais j'avais envie d'écrire un polar, quoi.
Mais ça vient malgré vous, ça ? Ou vous vous dites, je vais écrire une histoire d'amour, mais il y aura du polar aussi, et il y aura du roman sociologique, et je vais faire comme ça, je sais comment structurer. Ou alors c'est, quand vous écrivez, il y a cette histoire de procès qui vous vient d'abord parce que vous avez envie d'un polar, et puis malgré vous, l'histoire d'amour revient derrière, et puis en même temps, tous les ajouts de développement personnel et tout.
Non, ça vient en même temps, en fait. C'est-à-dire que je me dis, voilà, c'est quoi le mystère ? Une femme qui est amoureuse de son mari, ou un homme qui est amoureux de sa femme. Et puis, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? Il tombe, il y a un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Et je me pose souvent cette question de pourquoi est-ce qu'on trompe quand même les gens qu'on aime ? Pourquoi est-ce qu'on trompe quand même les gens qu'on aime ? Et parce que ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps qu'un homme trompe sa femme, qu'il l'aime, avec une autre fille avec qui il a une relation. Une relation qui n'est pas uniquement du sexe, mais qui est une aventure. Pourquoi les gens ont des aventures alors qu'ils pourraient vivre l'aventure de leur vie avec les gens qu'ils aiment ?
Et qui sont très bien en plus.
Et qui sont très bien, ouais.
Mais vous explorez cette dimension des amants, comme ça, à l'heure du numérique et à l'heure notamment de FaceTime. Et il y a une scène à la fois drôle et terriblement triste, c'est-à-dire qu'elle est en week-end avec son amant, Suzanne. Son mari l'appelle en FaceTime depuis 2-3 fois, ce qui n'est pas normal parce qu'il ne l'a jamais appelé en FaceTime. Donc elle commence à comprendre qu'il a des doutes et qu'il veut peut-être vérifier quelque chose. Et elle est dans un parc. Et elle est donc face à son téléphone en FaceTime avec son mari. Il y a son amant qui est là, qui est caché derrière le téléphone. Ouais. Et elle tourne sur elle-même pour montrer à son mari qu'elle est bien toute seule. Il y a son amant qui se déplace derrière.
Il tourne lui aussi.
Ça vient du vaudeville avec le numérique.
Ouais, ouais. Bah oui, c'est terrible. C'est une situation que des tas de gens ont dû vivre. Enfin bon, voilà, j'imagine d'un seul coup le mari qui appelle en FaceTime. Elle prend l'appel et puis elle tourne en lui montrant « Regarde ce paysage merveilleux dans lequel je suis, je domine tout Barcelone » parce qu'elle est à Barcelone avec son amant. Ils sont à Barcelone pour un congrès justement parce qu'ils travaillent ensemble. Et donc elle lui montre le paysage et l'amant tourne en même temps. Ouais. c'est parfois tragicomique, quoi, la tromperie.
Et alors, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que sur la quatrième de couverture est indiqué qu'à un moment, Suzanne est sur un piton rocheux avec d'un côté son mari qui pend à une corde, de l'autre son amant qui pend à une autre corde, et elle doit choisir pour en sauver au moins deux, sinon tout le monde mourra. Elle doit choisir de couper une des deux cordes. Mmh. Magnifique. Et c'est là où, quand je parlais des genres qui se rejoignent et qui se mêlent comme ça, c'est-à-dire que presque la morale de cette histoire d'amour adultère, c'est qu'il y a un moment où il faut choisir. Il ne faut pas avoir les
deux. Oui, oui. Il y a un moment où le choix s'impose. Ça s'impose à elle, à un moment où ils ont un accident, comme une sorte, ils dévissent en fait dans la montagne. Ils ont un accident, ils dévissent. Et elle est retenue d'un côté par son amant, de l'autre côté par son mari. Et au bout d'un moment, son amant lui tend un piolet et lui dit « Choisis ». Et là, elle doit choisir. Bon, je vous dirai pas qui.
Surtout pas.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La voix est livre, toujours avec Christophe Tison, et le choix de Suzanne chez l'Arpenteur, un choix terrible, puisque donc Suzanne, c'est le pitch du roman, mais je ne sais pas comment dire, parce que ça arrive à la moitié du roman, mais en même temps c'est sur la quatrième de couverture, mais c'est tellement génial comme idée qu'on a envie de le mettre au cœur de ce roman, parce que c'est en plus métaphorique et tout. C'est donc Suzanne sur un piton rocheux avec d'un côté son amant qui pend à une corde, de l'autre son mari qui pend à une corde, et il faut qu'elle choisisse entre les deux et qu'elle coupe une corde, sinon tout le monde mourra, et si elle coupe une corde, elle en sauvera deux. Terrible. À un moment, donc au début, on l'a dit tout à l'heure, ça commence par un procès, et évidemment le procès pendant le roman va se développer. On va évidemment pas parler de ce qui s'y passe réellement, mais ce que vous montrez, c'est la farandole de témoins et ce dévoilement de la vie personnelle, en fait, de ceux qui sont accusés.
Ouais, oui. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a procès, parce que forcément, les enquêteurs découvrent que la corde a été coupée et que donc, il y a eu meurtre, possiblement meurtre, et donc il y a procès. Et effectivement, elle voit passer, enfin, Suzanne voit passer devant elle tous ses anciens amis, collaborateurs, etc., qui disent « Ah oui, on l'a vu dans les couloirs, traîner avec cet homme, etc. » Et toute sa vie est mise à nu, quoi. Et c'est ça un procès. C'est d'un seul coup, vous êtes sur le banc des accusés, et d'un seul coup, votre vie est mise à nu, quoi. Elle est mise, elle est donnée en pâté au monde entier.
Et on a compris que ça partait complètement en vrille, alors que le début est quand même assez chouette, enfin assez normal en fait, normal plus, parce que Suzanne, elle est aisée, hein, comme on dit, elle a 40 ans, puis ça va, elle est très jolie, elle vit avec son mari.
Bah, elle ne dit pas qu'elle est très jolie, elle dit qu'elle est moyenne.
Ouais, mais en fait, moi je l'ai vue très jolie en lisant, donc
oui.
Laissez-moi tranquille. Elle vit avec son mari, tout va bien en fait, elle est assez libre, elle a un peu d'argent et tout, et puis tout part en vrille, et j'ai l'impression que vous dites, contrairement à toute l'idéologie moderne, vivre une passion, ou vivre plus, aller plus loin, c'est prendre un trop gros risque. Parce que tout part en vrille.
Oui, oui, ben, c'est sûr que prendre un amant ou faire des choses difficiles, etc., ou interdites, c'est prendre un gros risque. Ouais, c'est prendre un gros risque. Mais est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'elle avait le choix ? Elle n'avait pas le choix, enfin, Suzanne,
enfin,
dans le choix de Suzanne.
Elle a un peu le choix, en fait, puisqu'elle décide entre son mari et son amant, sous-entendu entre sa vie tranquille qu'elle a déjà, et puis la suite.
Oui.
Bon, autre chose, quoi.
Oui, oui, elle a le choix. Ouais, c'est vrai.
On nous reste un peu de temps, si vous voulez bien, pour ouvrir la porte de votre cuisine d'écriture. Est-ce que vous avez d'abord une discipline d'écriture ? Est-ce que vous avez des horaires très précis pour écrire ou pas ? Ou c'est quand vous pouvez, quand vous voulez ?
Non, j'ai aucune discipline. Je suis totalement indiscipliné. Je sais que je suis au meilleur de moi-même, au meilleur de mes capacités intellectuelles en début d'après-midi, contrairement à beaucoup de gens, en début d'après-midi jusqu'en fin d'après-midi. Et donc, j'écris du début d'après-midi à fin d'après-midi. Quand j'écris tous les jours,
c'est
tout le temps.
C'est pas courant.
Mais c'est parce que j'ai longtemps travaillé pour les JT du soir, certainement. Et donc, pour le JT de 20h à Canal+. Et donc, mon cerveau s'est habitué à travailler très, très fort jusqu'à 19h30. Et puis voilà, quoi.
Mais parce que vous êtes toujours journaliste, vous faites des documentaires, ouais. Mais vous dites que quand vous écrivez, c'est-à-dire que vous vous mettez en pause pendant plusieurs mois et vous faites que écrire ?
Non, je peux faire autre chose quand même, manger ou... Non, mais oui, je fais que écrire pendant plusieurs mois, ouais. Et ça me tient, ça me prend et j'y pense tout le temps. C'est-à-dire que quand je suis dans la rue, je vois quelqu'un, je vois un enfant, etc. Je me dis, ah putain, merde, y a cet enfant, il pourrait faire ceci ou pourrait faire cela. On me dit une phrase apparemment banale et je me dis, ah mais cette phrase, elle est géniale. Elle pourrait, enfin bon, voilà.
Est-ce que vous avez des rituels ? Est-ce que avant de commencer à écrire, d'abord, où est-ce que vous écrivez ? Et est-ce qu'avant de commencer à écrire, vous tournez sur vous-même, vous vous touchez trois fois la tête, un truc comme ça ?
Non, j'ai aucun rituel. Je ne mets pas des chaussons, je ne m'habille pas d'une certaine manière.
Vous ne mettez pas de musique ?
Non, je ne mets pas de musique.
Silence, silence ?
Ouais, silence. Parce que si je mets de la musique, j'écoute la musique et donc ça change. J'avais écrit un livre avec de la musique et de temps en temps, dans mon livre et dans ce livre-là, il y a des références à ce que j'écoute. Il y a des phrases qui sont tirées des chansons que j'écoutais.
Ouais,
malgré moi.
Mais c'est à votre bureau ou ça peut être éventuellement dans un bistrot ou il faut vraiment que ce soit calme ?
Souvent, je pars. C'est-à-dire que pour écrire un roman, ce qui est difficile, c'est de commencer. Une fois qu'il a atteint une taille critique, une fois que vous avez passé genre les 60 premières pages, 70 premières pages, vous vous dites « Ah bon, je ne peux plus l'abandonner maintenant, il faut que j'aille jusqu'au bout ». Donc il y a tout un moment très difficile qui est le début d'écriture, où vous êtes à 10 pages, 6 pages, 7 pages, et là vous pouvez abandonner. J'en ai abandonné plein des romans comme ça. Mais pour me donner cet élan, pour donner ce premier poids, souvent je m'en vais. Je vais 15 jours, 10 jours ou 15 jours à Tanger, par exemple, ou à Tunis, ou dans une ville comme ça, où ça ne coûte pas très cher, où je peux avoir un bureau, et puis louer un petit appartement, un bureau, et puis me balader le matin, et puis écrire l'après-midi.
C'est laborieux pour vous d'écrire ?
Ça
vous ennuie ou vous aimez avoir écrit mais pas forcément écrire ?
Non, j'adore écrire. Jamais c'est je joyeux. Me sens aussi vivant qu'en écrivant, quoi. C'est vraiment la plénitude pour moi, c'est d'avoir écrit une page et de me dire à la fin, oh, putain, c'est pas mal quand même.
Ah oui, ça d'accord, mais ouais. Sur le moment, quand il le travail lui-même.
Le travail lui-même, non, c'est difficile. C'est difficile. L'écriture, c'est un artisanat aussi. Hein. Je suis comme un meunier en train de faire sa farine. Enfin bon, voilà, c'est dur. Mais on se bat avec les mots, vous voyez. On se bat avec les mots comme un sculpteur se bat avec de la glaise. C'est-à-dire qu'on est dans les mots. On se dit pas... Moi, je me dis jamais « Ah, je veux dire ça » ou « je veux dire ça ». Je me bats avec les mots. Je me dis « Non, ce mot-là, ça va pas », etc. Et puis, ce personnage de Suzanne, il pourrait jamais dire ça. Il pourrait jamais dire « Va te faire enculer hein, ». C'est pas le genre de Suzanne. Non. Donc, il faut que je lui fasse dire « Va te faire enculer » d'une autre manière.
Ni il pourrait. Oui. Le choix de Suzanne à l'arpenteur.
Europe 1, 14h, 15h. La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Christophe Tison. Il est l'heure de visiter une bibliothèque. Vous connaissez sans doute Aurélie Valogne. Eh bien, elle vient de publier son nouveau roman, La Ritournelle, chez Fayard. J'avais déjà rencontré Aurélie Valogne, on avait parlé bouquin, et je savais qu'elle lisait beaucoup. J'étais curieux de voir de quel livre elle se chauffe.
Bonjour Aurélie Valogne.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir, pas chez vous, mais un peu chez vous quand même.
Vous nous expliquez pour ce qu'on fait là et où on est ?
Oui, alors effectivement, on n'est pas chez moi, on n'est pas en Bretagne, on n'est pas sur la côte nord magnifique de la Bretagne. On est à Paris, dans un hôtel que j'adore, où je viens régulièrement écrire. C'est mon havre de paix, il y a un petit jardin et je suis tranquille. Et effectivement, bah voilà, on est entouré de livres et d'orchidées, de plantes, et c'est un endroit où je me sens bien.
Ben, c'est ça, parce que moi, j'ai demandé, enfin Agnès Vaudin, qui travaille avec moi, a demandé à visiter votre bibliothèque. Mais je savais que vous n'étiez pas à Paris, que vous étiez en Bretagne, mais je me suis dit peut-être elle a un petit appart ou quelque chose quand elle vient faire sa promo et tout, mais non. Et donc vous m'avez proposé l'hôtel, j'ai dit ok, mais par contre il faut me ramener 3-4 livres, 3-4 romans que vraiment vous aimez et tout pour qu'on puisse en parler, puis après le reste on dira ce qui est resté en Bretagne. Résultat, vous êtes venu avec 30-35 livres. Merci beaucoup.
Je ne sais pas faire de choix. Non, mais j'ai une grande bibliothèque chez moi qui prend un pan de mur entier et dans lesquels j'ai rangé tous les romans. Les étagères sont assez réduites.
C'est dans le salon,
c'est à l'étage. En fait, il y a des livres partout chez moi. Mais le seul endroit où il y a une vraie bibliothèque qui a été un peu construite, c'est dans une pièce à part qui sert de bibliothèque dressing et qui est vraiment ma pièce à moi. On met des vêtements, mais c'est la partie qui m'intéresse le moins. La partie qui m'intéresse, c'est les livres. Il y a un fauteuil et j'ai effectivement tous mes livres, tous mes tableaux, des beaux livres aussi, des énormes livres qui ne rentrent pas dans la valise. Donc du coup, je ne les ai pas emmenés, mais j'en ai beaucoup. Et dans mon bureau, par contre, je les ai fait sortir parce que c'est quand même assez lourd que d'avoir autour de soi tous les grands auteurs, les grands écrivains. Et quelque part, c'est trop de pression. Je les vois me regarder. Et donc, non, à côté de moi, dans mon bureau, j'ai que des livres de travail sur le sujet en cours. Mais je fais une pause à côté et j'ai la chance. Ouais.
Et ça a été dur alors ? Expliquez-moi un peu comment vous avez fait votre choix. Vous avez mis la valise qu'il y a là, ouverte, là,
ouais.
Et vous l'avez rempli au fur et à mesure, vous en avez remis parce que c'était trop rempli.
J'en ai remis en plus. J'ai commencé par les livres qui ont changé ma vie. Donc les livres qui ont changé ma vie, je pense que j'ai Martin Eden.
Donc là, on est dans le petit salon de l'hôtel. Là, on les a tous étalés sur la table basse.
Et j'en ai plusieurs. Donc il est par là.
Martin Eden. Ouais, ah voilà. En plus, c'est une vieille édition. Ouais. Parce que je précise que ce sont que des vieilles éditions de poche,
oui.
Ou des éditions grand format aussi, mais plutôt anciennes. Il y a pas. Si, il y a quelques nouveautés. Mais vous les chinez, les livres ?
Oui, et puis j'aime bien quand j'en trouve une avec une couverture que j'aime beaucoup racheter. Donc moi, je prends celles qui ont le plus d'âme. Là, typiquement, on va voir qu'il manque un livre que j'adore, c'est Dans les forêts de Sibérie, parce que j'aime pas du tout la nouvelle. Ouais, je l'ai offert, donc du coup, j'ai donné mon exemplaire. Et en fait, j'aime pas la nouvelle réédition, donc je l'ai pas. Et
c'est l'histoire de Sylvain Tesson qui part 6 mois dans une cabane au fin fond de la Sibérie, tout seul, tout seul, avec de la vodka et des livres.
Exactement, et en fait, je crois que c'est mon fantasme absolu.
Et voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
J'adorerais faire ça. Et tous les livres...
Avec de la vodka et des livres aussi ?
J'adore le vin, mais la vodka, je pense que la bonne vodka, ça va être très bon. Avec des livres, avec du thé, avec un poêle, une cheminée, un chien. Lui aussi, je crois qu'il a un chien. Et puis de se débrouiller, d'aller creuser son trou dans la neige, pêcher son poisson. Et je crois que je suis incapable de faire quoi que ce soit avec mes 10 doigts, mais c'est ça serait ma fierté d'une vie, hein, d'arriver à me débrouiller seule. J'ai lu En cabané aussi de la Québécoise, alors je me souviens plus de son nom. Pareil, où elle va s'isoler dans une cabane au Québec. Et là, je me dis, c'est une idée un peu fixe. Et c'est aussi pour ça que dans les livres, je ne sais pas si on le voit là, Édouard Cortès par La force des arbres, extraordaire. J'ai adoré, hyper bien écrit.
C'est un essai, c'est un roman ?
C'est plutôt un récit. En fait, après une dépression, il était agriculteur. Il a perdu tout son troupeau et il s'est dit, soit je décède, soit je pars m'isoler dans un arbre. Et je ne descendrai pas de mon arbre avant la fin du printemps.
Il y a sa cabane à 10 mètres de haut. Là,
il l'a construit lui-même. Ouais, c'est lui. Il l'a construit avec donc baie vitrée de partout. Je crois qu'elle fait 9 ou 12 mètres carrés. C'est pas si petit, mais et donc il n'est pas sorti pendant plus de 4 mois. Et il est resté dedans. Et donc il décrit que il a une branche qui passe dans sa cabane. Il y a les fourmis qui se suivent et il observe les fourmis pendant des heures et il mange du miel. Enfin, je sais pas. J'étais avec lui. Je me suis dit mais j'adorerais être dans sa cabane.
Et quoi. Vous avez jamais fait ça ?
Pas encore. Pas encore.
Même une semaine ou...
Qu'est-ce que j'ai fait
dans votre cabane quand vous écrivez, vous
c'est ça,
me dire,
mais... c'est ça, c'est dans ma tête, mais la fierté de se dire j'ai réussi à me débrouiller. Moi, je suis la première à dépérir quand le frigo est vide. Donc moi, je lui ai écrit à Edouard et je lui ai dit mais j'adorerais faire ce que tu fais, mais le ventre appelle. Comment t'as fait pour survivre mentalement quand t'es mort de faim Et c'est quelqu'un que j'adore, en plus, il est très gentil.
Puis surtout, dans le Sylvain Tesson, rappelez-vous, il a quand même un téléphone satellite au cas où.
Oui.
Et au bout d'un moment, sa copine l'appelle pour lui dire « Écoute, mon vieux, t'es gentil avec tes aventures et ta solitude, mais si tu veux être seul, ce sera sans moi. »
Exactement, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles
il part. Donc c'est un risque, la solitude.
Et aujourd'hui, je n'ai pas cette solitude, parce que, alors je l'ai en écrivant, effectivement, mais j'ai la chance d'avoir un mari et deux enfants. Et parfois, voilà, on se dit, mais comment faire plus de place? Est-ce qu'on a le droit de se dire, salut les enfants, je m'en vais pendant 3 mois et on se reverra, mais j'ai besoin de ça pour vivre. C'est pas hyper bien accepté, et peut-être je me trompe, mais notamment pour une femme qui abandonnerait ses enfants pour aller vivre un truc bizarre. Et là, à chaque fois, ces aventuriers extraordinaires, et on pourra parler de Jack London aussi, c'est plutôt des hommes.
Par contre, pour le personnage d'Aurélie Valogne, ça serait top, quoi.
Ah, je ne sais pas ce qu'il en ressortirait, c'est flippant. Parce que dans les autres expériences, peut-être qu'on va en parler aussi, notre ami de David Van qui a écrit Swan Island.
Bon, allons-y, parce que quand je l'ai vu...
Ouais, je l'adore.
Alors je raconte, parce que je le vois donc, chez Gallmeister, Swan Island, David Van, gros succès. Et bon, moi j'avais été, je pense parfois encore, je l'ai lu il y a, je ne sais plus, 5-6 ans, je pense parfois encore à la fin qui est vraiment terrible. Et en fait, vous prenez le livre, vous me regardez d'un air entendu, vous dites page 113.
Oui.
Je dis quoi, page 113 ?
Bah, sur ma version, c'est la page 113. La page 113, il se passe un truc. En fait, c'est l'histoire donc, d'un papa qui emmène son fils habiter dans la forêt. Voilà, le coupe de l'école. Et en fait, on suit donc, ce père et ce fils, la transmission. Il lui apprend à couper les arbres.
Je viens de lire la page 113.
Bah, incroyable, cette page.
Ah, mais oui, bien sûr.
Et en fait, bien, ou plus ou moins bien. Et d'un coup,
on raconte pas,
page 113, gros craquage de l'auteur, donc on est à la moitié du bouquin.
On dit, mais qu'est-ce qu'il fait ?
Voilà, et donc comment tu continues ? Moi, en tant qu'écrivaine, je me dis, mais comment il va continuer son livre maintenant ? Et donc effectivement, c'est super, la suite est super, mais alors, du coup, j'ai un peu défleuré en racontant qu'il se passait un truc au milieu.
Non.
Mais c'est aussi pour ça que ce livre est incroyable, et j'ai un peu de mal à le recommander, parce que les gens, quand je leur dis, lisez ça, après, ils reviennent vers moi en disant, mais tu es taré dans ta tête.
C'est vrai que c'est un peu toxique.
Mais je l'adore, je l'adore.
C'est dérangeant,
j'ai besoin de livres comme ça, justement, qui nous pousse, et La route qui est là aussi fait partie, c'est un livre que j'ai lu pendant ma lune de miel. Voilà, chacun ses lectures. Mais...
Donc La route, quand McCarthy, qui est un père et son fils dans un univers post-apocalyptique.
Ouais.
On le trouve souvent dans les bibliothèques que je visite.
Ouais.
C'est un des livres préférés du monde entier, je pense.
Mais vraiment, il m'a mis une énorme claque. Des émotions comme ça, je crois que j'en avais pas ressenti parce que je l'ai vécu. Ce que j'adore, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc ça peut nous arriver demain. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'il y ait la fin du monde. On voit des hommes qui sont prêts à se bouffer les uns les autres.
Vous l'avez vécu. Vous avez. C'est tellement bien écrit que vous étiez dedans.
J'étais dedans.
Je me suis dit merde.
Elle
a été
dans
un truc fou.
Non. Pour moi, quand je lis, je suis vraiment toujours embarquée si l'auteur fait bien son travail. Et puis il a pris Pulitzer, incroyable. Et donc vraiment, j'étais avec eux, je ressentais la peur, j'étais cachée dans les forêts, je poussais mon caddie, va vers le nord, le père, le fils et puis le fils. Enfin, c'est incroyable, j'ai adoré. Mais pareil, ce sont des livres, quand je les recommande, on me regarde avec des grands yeux en disant « Mais qu'est-ce qui te prend de... ?» Je t'ai demandé un livre de vacances. Je suis désolée, c'est ce que je lis pendant mes vacances.
Je tente une transition un peu bébête, mais vous avez parlé d'échecs scolaires et j'ai vu là, quand vous avez soulevé un autre livre tout à l'heure, « Des fleurs pour Algernon » chez Flammarion Jeunesse, qui est d'ailleurs
je suis pas d'accord
sur le livre préféré de Bernard Werber.
Je sais, c'est à cause de lui que je l'ai lu.
Ah bon ?
Ouais, c'est à cause de lui que je l'ai lu, je pense qu'il le recommande souvent. Moi, je suis pas d'accord sur Flammarion Jeunesse.
Oui,
moi,
de toute façon,
c'est la jeunesse, c'est pas un livre jeunesse du tout, mais c'est ce que j'ai... Là, je l'ai acheté en français pour mon mari, parce que je l'avais lu en anglais. Et en fait, c'est vraiment un livre que je trouve extraordinaire. C'est sur une personne qui est déficiente mentale et qui nous raconte donc son quotidien dans un journal intime. Et on suit cette écriture qui est vraiment pleine de fautes d'orthographe, difficile à lire. Et il nous apprend que voilà, des médecins vont faire une opération sur lui pour le rendre intelligent. Et d'ailleurs, ça a marché parce qu'il y a une petite souris qui est devenue vraiment très intelligente, même plus intelligente que lui.
Algernon,
exactement. Enfin oui, pardon, je dis... je sais pas.
À l'anglaise, Algernon. Daniel Keyes, l'auteur d'ailleurs.
Et en fait, donc, on suit ce journal intime. Et ce qui est extraordinaire dans l'écriture et dans le processus, c'est qu'on voit son écriture s'améliorer dans le journal. Plus il devient intelligent, plus il commence à être aussi moins heureux. Il voit que les gens autour de lui lui ont peut-être toujours menti.
Plus lucide.
On se moque de moi. On voit aussi l'évolution de la souris. Et bien évidemment, bah, c'est un arc. Je raconte pas tout, mais c'est voilà un chef-d'œuvre absolu. Et je remercie Bernard Werber parce qu'effectivement, ça fait partie des livres. J'étais obligée de le prendre. J'ai adoré.
Donc, on parlait des livres jeunesse justement, et vous en avez ramené, et notamment, bon, il y a les quatre filles du docteur March. Mais c'est pas non plus un livre jeunesse, enfin.
Non, et c'est vrai que ça reste quand même un livre qui, je pourrais le citer à chaque fois parce que ce personnage de Jo, mais je pense que malheureusement, j'en sais rien, c'est très bateau, mais il y a tellement de jeunes filles qui sont reconnues. Moi, petite, j'avais envie d'écrire, je voulais être journaliste. Un des mots que je préfère, c'est liberté et désobéir. Enfin, vraiment. Et ce personnage-là, elle rentre dans aucune
case.
Jo,
c'est la fille des quatre filles du docteur March qui est la plus rebelle, quoi.
C'est la plus rebelle, et en même temps, elle a un grand cœur parce que quand il faut soigner son père et qu'ils n'ont pas les sous, elle est prête à couper ses cheveux, et elle dit mais non, tout va bien. Elle cache que ça lui fait rien du tout, puis la nuit elle se met à pleurer en disant mais qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, elle a vraiment une profondeur que je trouve hyper attachante, et c'était un peu mon modèle quand je l'ai lu, je sais pas, dans les années 90.
Et oui, parce que vous avez les vieux folios juniors.
Ouais, bah, j'ai amené ma version à moi, hein. Celle qui m'a accompagnée, qui est pas en super état, mais
Meg, Jo, Beth et Amy.
Ouais. Et c'est vraiment voilà, un livre qui a été écrit il y a presque 200 ans maintenant, mais qui m'a laissé une trace sur le fait que ça peut être possible d'être une fille, d'écrire et d'aller au bout et de pouvoir dire non à certaines conventions.
Et vous êtes née dans les années 80, est-ce que vous regardiez le dessin animé de l'époque ?
Oui, avec ma mère, et on pleurait. On pleurait quand Beth, elle meurt de sa scarlatine, je crois. J'ai regardé, j'avoue.
Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Le grand méchant renard.
Là, ça fait partie des livres jeunesse que j'aurais adoré écrire, parce que c'est tellement drôle, c'est bien foutu.
Mais c'est vieux ou c'est...
Je pense que ça a une trentaine d'années, d'accord. Vingtaine d'années, je ne sais pas trop.
Vous l'avez lu jeune aussi ?
Non, celui-là, non, c'est je lis à mes enfants, en fait. Ah, c'est okay. J'ai une petite sélection aussi. Où finalement il y a une transmission qui se passe, et ce qui est extraordinaire, donc là, c'est l'histoire d'un renard qui est tellement fin qui décide d'aller dans un poulailler et de manger une poule. Il n'y arrive pas parce qu'il est vraiment il est nul, et donc il décide par plus de sécurité de voler des œufs et ensuite de les faire grandir et ensuite pouvoir les manger. Sauf que les œufs, bien évidemment, s'attachent à lui et passent leur temps à dire maman, maman, il dit tu me saoules. Et donc quand je raconte ça à mes enfants, je trouve ça très jouissif de pouvoir dire en tant que maman à ses enfants tu me saoules, je suis pas là. C'est hyper drôle, hyper bien écrit, et je me fais des pages entières le soir à leur raconter. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une jalousie, idée génialissime, j'aurais adoré.
Et puis alors, c'est quoi ce livre-là, ouais.
Celui-ci, c'est l'histoire sans fin. C'est le premier livre qu'on m'a offert.
Et c'est un grand format illustré.
Oui, ah ouais. Je crois. C'est le premier livre qu'on m'a offert. J'étais en CP et ma grand-mère m'avait dit pour chaque classe que tu vas passer, je t'offrirai soit un stylo, soit un livre. Et chez nous, on n'avait que des livres de la bibliothèque municipale. Donc ça, c'est le tout premier que j'ai eu. Et elle m'avait dit, mais t'es en CP, tu sais pas encore lire, tu vas pas y arriver. Et j'ai dit, tu vas voir, mémé, je relève le défi. Et je l'ai lu. Voilà. Donc ça fait partie des livres importants pour moi, parce que ça correspond aussi à ma passion et à l'amour que j'ai pour les livres, où quand je lis un livre, je plonge complètement dans l'histoire. Et là, c'est le cas de Bastien, qui voit un livre dans une librairie, ne va pas à l'école, s'enferme dans un grenier et redécouvre qu'il y a une princesse qui a besoin de lui. Il plonge dans le livre et il va la sauver. Et il va sauver le héros qui est perdu aussi. Et il y a le néant qui menace, la grande mélancolie. Et ça fait peur, ça fait frissonner. Quand on est enfant, j'ai voyagé avec ce livre. C'était le premier.
Michael Ende. Beau cadeau, hein, 89 francs.
D'époque. Des sous.
Et qu'est-ce que c'est que ce 5, là ?
Ah oui. Alors ça, ce 5, c'est un petit livre, cahier. En fait, c'est plutôt un carnet qui est assez épais. Il doit faire, je ne sais pas, 5-6
cm. Très joli.
Assez joli qu'on m'a offert. C'est marqué journal à compléter, 5 ans de réflexion. Donc moi, je n'ai pas eu de réflexion à mettre pendant 5 ans. Mais je l'ai utilisé pour noter tous les livres que je lisais.
C'est un carnet.
Ouais, au fur et à mesure. Complètement vierge, avec un faux agenda. Et donc, on peut lire, je ne sais pas, janvier 2020, Simone de Beauvoir, La force de l'âge. Ensuite, le livre que j'ai lu, c'est Zweig, le joueur d'échecs.
Ah, c'est la liste des livres que vous lisez.
Bah, comme je lis aussi sur liseuse, je n'ai pas toujours la trace de ce que je lis. Et je ne sais plus ce que j'ai lu, pourquoi j'ai aimé. Parfois, je cite une phrase.
Jean-Paul
Dubois. Je mets des petits commentaires personnels. Sylvain Prudhomme, Sylvain Tesson.
C'est pas à la date où vous l'avez lu.
C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Donc il y avait un janvier 2020, donc c'était en 2020 quand même. Le chant
d'Achille. Albert Camus, vous avez ramené beaucoup d'Albert Camus.
J'adore Albert Camus. J'adore parce que Notamment le premier homme que je trouvais extraordinaire parce qu'il raconte son enfance. C'est là, voilà, génial, le meilleur livre de Camus. Sa vraie vie, manuscrit au moment de sa mort. Et ce que j'adore aussi, c'est que...
Là, vous avez lu les commentaires que vous aviez écrits.
Ouais, oui, pardon. Je lis les commentaires que j'ai fait sur le premier homme d'Albert Camus. Et ce que j'aime dans cette histoire notamment et dans cet auteur, c'est la sincérité, c'est le fait qu'il vient d'un milieu social pas évident, qu'il a eu un professeur qui lui a tendu la main, donc pur produit aussi de l'école républicaine. Et il a réussi à avoir une vie que je trouve forcément magnifique, romanesque et qui se termine pas très bien pour lui et bien trop tôt. Et dans son dernier manuscrit, Le Premier Homme, on voit aussi sa façon de travailler. On voit que parfois il a une approche, et je peux avoir des mêmes réflexes, où il écrit la vérité et à la fin il dit « Pensez à changer les prénoms, sinon mon oncle va se vexer », ce qui peut m'arriver aussi. Bref.
Il faut aussi qu'on parle de Annie Ernaux, oui, et Virginia Woolf. Oui. Il y a une grosse passion pour les deux, parce que vous en avez ramené, ouais, plusieurs.
C'est vrai.
Dont le journal de Virginia Woolf et la grosse édition Quarto de Annie Ernaux, Écrire la vie.
Ouais. Annie Ernaux, c'est un peu pour les mêmes raisons que Camus, ça a été c'est une grande sœur. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'elle a vécu toute ma vie avant moi. Elle dit « J'ai grandi sans honte sociale et sans honte sexuelle. Les deux me sont tombés dessus et depuis, je suis aliénée et je suis obligée d'écrire dessus. » Et le truc de honte sociale, je l'ai ressenti seule. Et de lire ces mots m'a un peu consolée, réconfortée. Et en fait, quand je la relis régulièrement, là j'ai relu La femme gelée, j'ai l'impression qu'elle est venue dans ma vie, elle sait tout ce que je peux ressentir, sa relation parfois avec sa mère aussi. Donc ça fait partie des auteurs vraiment qui nous sauvent, qui nous sont utiles. Et elle trouve toujours la justesse en racontant les choses universelles sans se mettre en scène, pour que ça nous touche directement au cœur. Donc vraiment, Annie Ernaux, grosse passion, peut-être pas très, très originale, mais voilà, c'est une grande sœur.
Et alors Virginia Woolf, ouais, vous avez ramené Une, ouais, chambre à soi, et puis le journal Une chambre à soi, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur, oui, le besoin de solitude.
Oui, oui, complètement. C'est vrai que je mets parfois les gens à distance. Enfin, j'ai vraiment besoin, pour faire de la place à mes personnages, j'ai aussi besoin un peu de solitude. Et ici, donc effectivement, le journal de Virginia Woolf, donc j'ai un truc hyper gros à la maison qui était beaucoup trop lourd, donc je l'ai pas emmené. Et déjà, il est gros, mais c'est qu'un bout des sept livres. Et il y a un autre livre qui s'appelle Quel soulagement se dire j'ai fini, qui reprend tous les extraits de son journal quand ça parle d'écriture. Et donc on suit ses pensées, ses doutes. Et c'est vrai que je lis énormément de journaux intimes, notamment d'écrivains, parce que j'ai l'impression d'être un peu moins seule quand je repars de zéro, que j'ai des doutes, que je ne sais pas où je vais. Parce qu'écrire, c'est vraiment un métier quand même très solitaire.
Lire aussi, d'ailleurs.
Lire aussi, mais ça, je ne me sens pas seule quand je lis, parce que je suis dans le monde des personnages. L'écriture, on n'a que des questions et pas de réponses. Et à chaque fois, on écrit le brouillon et on se dit, bon bah, j'aurais pu prendre à gauche, j'ai pris à droite. Y a pas de... On ne sait pas quelle était la meilleure solution. Après coup, on est plutôt satisfait du choix. Mais... Donc non, Virginia Woolf, vraiment quelqu'un que beaucoup de respect. La chambre à soi m'a vraiment forcément marquée parce que je me suis rendu compte qu'il fallait être indépendante financièrement. Avec mon mari, dès le début, ça a été chacun gagnera son argent. J'ai été élevée comme ça par ma mère aussi. Et d'avoir, aujourd'hui, j'ai un bureau avec une porte qui ferme. C'est un luxe absolu que je n'avais pas avant.
Magnifique. Un dernier mot sur un livre de Georges Simenon, mais ce n'est pas un Maigret. C'est Je me souviens, dans une très vieille édition.
Oui.
Là, c'est chouette. Hein.
Assez chouette. Du coup, je fais quelques allergies en le lisant, mais parce que vraiment, il est très, très vieux. Et puis, non, Simenon, en fait, c'est vrai que moi, je n'ai pas une grande passion pour les policiers ou les Maigrets. Moi, par contre, ce que j'adore, c'est tous ces journaux, ces carnets. Je me souviens, quand j'étais vieux, sa correspondance avec Fellini aussi, qui est extraordinaire. Moi, j'ai voyagé avec lui, j'étais en Suisse, il nous raconte... on sent aussi qu'il est attiré aussi par, par toutes les femmes qui sont à son service. Enfin, il y a un petit côté... il est très, très, très chaud. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir à quel point même lui écrit différemment. C'est-à-dire qu'avant, il écrivait jamais à son bureau... Et d'un seul coup, en vieillissant, on se dit, bah, maintenant, je vais m'asseoir, je vais prendre un stylo, j'arrête le dictaphone. Enfin, il retourne vraiment à plus de lenteur, à une autre façon d'écrire pour aller chercher des souvenirs beaucoup plus intimes. Et je trouve ça magnifique de voir les doutes qu'il peut avoir sur lui, sur ses écrits. Je trouve que c'est toujours plus intéressant de lire et de regarder ce qui se passe dans la tête des écrivains, parfois plus que leurs textes. Je fais ça notamment avec Romain Gary, là aussi, mais Duras, ils sont tellement riches et ils ne nous racontent pas tout dans leurs livres.
Merci beaucoup Aurélie Valéry.
Merci Nicolas, c'était un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Peut-être en Bretagne.
Peut-être en Bretagne.
Retour en studio et je rappelle La Ritournelle, c'est le nouveau roman d'Aurélie Valogne, c'est chez Fayard. Et chez vous, Christophe Tison, comment sont rangés les livres? Est-ce qu'il y a des livres d'ailleurs? Où est-ce qu'ils vont, ils viennent? Est-ce que vous en débarrassez au fur et à mesure? Est-ce que vous accumulez?
J'ai beaucoup accumulé et puis je m'en suis beaucoup débarrassé. C'est-à-dire que comme j'ai déménagé genre 6 fois ces 10 dernières années, les 6 fois, j'ai mis des sacs entiers de livres sur le pas de ma porte qui ont disparu aussitôt. Et je me suis délesté de quelques centaines de livres comme ça. Il ne me reste plus que les essentiels, c'est-à-dire les livres que j'aime vraiment, vraiment, d'auteurs que j'adore. Et ils sont classés par préférence. L'accessibilité, les plus accessibles sont les plus ceux que je préfère. L'usage du monde de Nicolas Bouvier, par exemple, ou Proust, ou Spinoza, sont là, accessibles.
Mais comment vous avez décidé de vous débarrasser des autres? Le choix était dur ou était assez évident?
C'était très difficile, j'avoue. C'était très difficile, mais je me suis dit que je ne pouvais pas. Je partais dans des appartements qui étaient plus petits parfois, etc. Et donc je ne pouvais pas tout emporter. Donc, il fallait que je m'en débarrasse. Et c'était, oui, c'était difficile, mais je me disais, non, mais celui-là, je ne le lirai plus jamais. Ou celui-là, je ne le lirai plus jamais. Donc, je n'ai plus que des livres que je relis.
Mais vous les avez regardés un par un, en face à face, pour leur expliquer un peu.
Oui, un par un.
La rupture.
Ouais.
La voix est livre.
Nicolas Caro.
La voix est livre, l'heure des libraires. Il est temps de rejoindre Thibaut Raden à la librairie L'Écriture, à Vaucresson.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nicolas.
Alors, comme d'habitude, Thibaut Raden, c'est quelque chose de très différent. Et alors là, vous m'avez carrément dit, non, je ne fais pas de coup de cœur de roman, je parle d'un éditeur aujourd'hui.
Ouais.
Donc là, vous avez 5 romans d'un même éditeur.
5 romans, il en a fait 8, je crois. Alors l'éditeur, c'est le Penseur. Penseur, pas avec P-E-N, mais avec un A. Et ça a une double signification qui serait ravi de vous expliquer ce type, parce qu'il parle merveilleusement bien.
Celui qui met un pansement, quoi.
Oui, et puis c'est aussi phonétiquement celui qui pense. Enfin, il a une idée de l'utilisation des mots, ne serait-ce que dans le nom de cette maison d'édition, qui est assez extraordinaire. Et en fait, tout ça est représenté dans les livres qu'il édite. Alors là, j'en ai 5 posés sur la table. La ville humide de Claire de Dumas, qui est une nouvelle, Ossature de Nassim Kezoui, qui est un grand roman familial. L'homme qui n'aimait plus les chats d'Isabelle Hoppy, qui est une espèce de dystopie très particulière. Félix Silverstris d'Anouk Lexik, alors désolé pour son nom, j'y arrive pas, qui est aussi un roman sur la famille, mais qui est plus porté vers la rêverie et la poésie, et Minuit sur le monde de Jules Petrichor, qui est un roman de science-fiction, pourrait-on penser, qui est une merveille aussi. Et en fait, tous ces romans ont en commun une utilisation des mots très particulière. Exemple, dans Minuit sur le monde, le personnage principal s'appelle « lui ». Le monde s'est arrêté à l'heure de minuit, et donc quand on dit qu'il est minuit et quart, on ne dit plus minuit et quart, on dit minuit et tant de choses. Donc, lui regarde l'heure et il est minuit et tant de choses. Vous avez des phrases qui sont superbes. La ville humide, c'est donc une nouvelle qui porte très bien son nom. On suit une jeune fille qui vit avec son père, sa mère malade et sa grand-mère dans une ville où il y a de la brume tout le temps. Et donc, la brume évoquée de plusieurs manières différentes. J'en ai discuté avec des gens de cette maison et je disais, ce livre, pour être adapté par exemple au cinéma, il faudrait un dessin animé. Quand vous l'imaginez, vous imaginez un dessin animé tellement c'est poétiquement aussi loin que ça, quoi. Ossature de Nassim Kezoui part dès le départ, les 3 premières pages, sur justement l'importance des mots. C'est la mort de l'oncle du personnage principal qui s'appelle Salim, sauf qu'on ne l'appelait pas que Salim, on appelait le boucher et tout un tas d'autres choses. Et donc en fait, avec ces mots-là, il va caractériser une personne. Et en fait, cette utilisation des mots est constamment, constamment développée sur presque 600 pages d'un petit chef-d'œuvre, comme on disait avec une amie. L'homme qui n'aimait plus les chats, c'est vraiment le cœur de cette histoire, parce qu'en fait, on est sur une petite île française, on suppose, où tout le monde se connaît un petit peu. Et il y a plein de chats partout, ils appartiennent un peu à tout le monde et en même temps à personne. Et un jour, ils disparaissent. Et après moult petites aventures, il y a une dame qui revient extrêmement sévère, physiquement, droite, enfin, on peut pas, froide au possible, qui arrive avec des cages. Et dans ces cages, il y a des chiens. Et elle leur donne une laisse, elle donne les chiens en disant « ce sont vos chats ». Donc en fait, elle change les mots, mais pas leur signification. C'est extraordinaire. Et Félice, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, c'est une espèce de rêverie autour de la famille où en fait, notre narratrice, sa sœur est partie, peut-être pour lutter contre certaines choses. Et en fait, elle va fantasmer son voyage. Et justement, en fantasmant ce voyage, il y a tout un tas de choses où, par l'évocation des mots, elle arrive à évoquer des sentiments. Enfin, c'est merveilleux, c'est vraiment une maison d'édition qui moi, me chamboule de A à Z et que j'ai envie de faire découvrir à tout le monde, quoi.
Bon, là, on arrive au niveau ultime du libraire, quoi. Là, on est au niveau 99, c'est-à-dire que le Thibaut, non seulement il est capable de donner envie de lire un ou deux livres comme ça, mais là, carrément, toute une maison d'édition, vous m'avez chopé. Et effectivement, alors, on ne les voit pas à la radio, mais les couvertures sont magnifiques, de sobriété, avec des couleurs comme ça, très mates. C'est très beau, avec des formats très différents, la nouvelle, le grand roman et tout. Ça s'appelle donc Le Penseur, PANSEUR. Merci beaucoup Thibaut.
Merci Nicolas.
Retour à Europe 1, toujours avec Christophe Tison et le choix de Suzanne à l'Arpenteur et Héloïse Goy qui nous a rejoint. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas, bonjour Christophe.
Bonjour Christophe Tison. Chronique jeunesse, vous ne parlez pas d'un livre mais d'une série d'animation à dessin animé.
Eh oui, mais inspirée. Inspiré d'un livre, ben oui. En fait, je vous parle d'un petit bonhomme culte qui a bercé, j'en suis sûre, vos enfances. Il est jeune, il est petit, il est brun. Il fait volontiers des bêtises, il n'adore pas l'école. Mais en revanche, il adore ses amis qui s'appellent Alceste, Clotaire, Eudes ou encore Geoffroy. Son amoureuse et même celle qui compte épouser plus tard s'appelle Marie Edwige. Ce petit garçon a le même prénom que vous, Nicolas, vous l'avez. Le petit Nicolas, bien sûr. Et plus de 60 ans après sa création par René Goscinny et Sempé, vous imaginez 60 ans, ça ne nous rajeunit pas. Eh bien, le petit Nicolas est de retour dans une nouvelle série d'animation diffusée sur M6. Et alors, pour ce nouveau format, des histoires originales de ce héros et de ses amis ont été créées. L'occasion pour le petit Nicolas de partir en vacances avec ses parents, toujours à Bains-les-Mers, en Bretagne. Mmh. Et là-bas, il rencontre de nouveaux copains et copines avec qui il pourra faire de nouvelles blagues. D'ailleurs, on constate qu'il y a d'ailleurs plus de petites filles dans ces épisodes que dans les livres de Sempé et de Goscinny. Et c'est volontaire de la part des scénaristes d'inclure un petit peu plus de filles. Et en plus de ces nouveaux scénarios, cette série d'animation 3D a nécessité un travail phénoménal. Plus de 150 collaborateurs venus de France et de Belgique ont mis la main à la pâte pendant plus de 24 mois pour donner naissance à ce nouveau format. Et il faut avouer que le résultat est vraiment très chouette, autant pour les enfants que pour les parents. Alors déjà, parce que je trouve que le petit Nicolas est indémodable. Moi, je suis capable de le lire comme si c'était la première fois que je le découvrais. Et aussi parce que les personnages sont très bien incarnés et je les ai trouvés assez proches de ce qu'on peut imaginer quand on lit les pages de Sempé et Goscinny. Par exemple, parmi les voix qui doublent les personnages, on en retrouve certaines que vous allez peut-être reconnaître, comme celle de la maman du petit Nicolas.
Maman, regarde, j'ai trouvé un crabe terrible.
Bravo Nicolas, c'est un Carcinus maenas. C'est le nom latin de ce crabe. Ils sont nombreux ici. Oh, mais il se fait tard. Papa a dû finir son petit dossier urgent pour Monsieur Moucheboum. Allez, viens Nicolas, on rentre. Rends sa liberté au crabe.
Alors, si vous trouvez à qui appartient cette voix, je vous offre des chocolats de Pâques. Des chocolats de quoi.
Moi, j'adore la musique derrière.
Oui, mais c'est pas la question.
Moi, je me suis laissé emporter par la fiction. Je n'ai pas essayé de chercher.
Il s'agit, en fait, c'est assez difficile, de la voix de Flavie Flamand, qui s'est très bien prêtée au jeu pour incarner cette maman. Alors, du coup, j'ai voulu savoir comment le petit Nicolas avait bercé son enfance à elle.
Bien sûr que le petit Nicolas a jalonné mon enfance, ma préadolescence, mais d'une façon assez particulière, car je me souviens que je les lisais en allant à la bibliothèque municipale et que le petit Nicolas faisait résistance à tous les autres journaux ou magazines ou livres de BD japonaises qui étaient en train d'arriver en fait sur le marché. Et donc le petit Nicolas avait quelque chose d'intemporel déjà, et c'était déjà une valeur sûre dans mon esprit.
Alors si vous n'avez pas reconnu sa voix tout à l'heure dans l'extrait, c'est normal parce que Flavie Flamand s'essayait au doublage pour la première fois avec ce format. Et du coup, elle nous raconte comment elle a vécu cette expérience avec cette série d'animation.
J'ai adoré cette expérience parce que pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau qui me faisait sortir de ma zone de confort, qui me faisait apprendre quelque chose d'inédit. C'était comme de repartir de zéro et c'est à ça que tient le plaisir de faire les choses aussi. C'est de se mettre en difficulté. Et puis, doubler un personnage, c'est absolument génial parce que c'est faire de la comédie sans avoir le regard, sans avoir les gestes. Ça, tout passe par la voix. J'étais accompagnée de coach. La maman du petit Nicolas, c'est une femme qui est vraiment dans le coup. Elle est hyper moderne. Elle pourrait vivre en 2022. Elle mène son monde à la baguette. Elle est indépendante. Elle est volontaire. C'est un personnage qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Une expérience, en tout cas, hyper intéressante, difficile parfois, mais que j'aurai tellement plaisir à renouveler prochainement.
Voilà, le petit Nicolas, version très moderne, même si à l'époque, le livre était déjà très moderne. Le petit Nicolas, tous en vacances, cette série d'animation est à retrouver tous les matins, du lundi au vendredi à 7h20 sur M6. Et parce que je vous sens très impatient, messieurs, vous pouvez également retrouver des épisodes sur le site 6play.fr.
Et puis on peut surtout retrouver les livres, hein. On peut les trouver en librairie. Le
Absolument,
petit Nicolas,
c'est quand
même une bonne entrée dans la lecture. D'ailleurs, Christophe Tison, est-ce que vous vous rappelez du premier roman que vous avez lu ?
Oui, je me rappelle, c'était un roman que je lisais quand j'arrivais pas à dormir, j'allumais la lumière et c'était La Case de l'Oncle Tom.
Ah ouais.
Ouais. Et je me suis fait pincer parce que un jour, je suis arrivé à la fin de La Case de l'Oncle Tom et malheureusement l'Oncle Tom meurt et j'étais en pleurs et j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer et mes parents ont découvert que je lisais la nuit.
Magnifique. Le choix de Suzanne à lire aussi la nuit, c'est à l'Arpenteur. Merci beaucoup Christophe Tison.
Merci Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuche pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.